Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire globale de l'émergence du capitalisme. Et donc nous sommes avec Benjamin, étudiant en sciences sociales, pour parler de ce sujet. Dans une première partie de cette émission, nous avons fait une critique de l'historiographie traditionnelle, et notamment les problèmes à la fois historiques et politiques que l'historiographie traditionnelle posait. On a du coup proposé une autre théorie de l'émergence du capitalisme, beaucoup plus spécifique et qui dénaturalise plus le capitalisme, qui était celle du marxisme politique. Et puis on a vu les limites du marxisme politique, notamment sur le fait qu'elle restait trop anglo-centrée et que ne faisait pas assez de connexion avec les dynamiques des autres sociétés en dehors de l'Angleterre, et du coup d'articulation avec les autres formes d'oppression globale comme l'esclavage ou la colonisation. Pour maintenant esquisser et aller vers une histoire globale de l'émergence du capitalisme, il y a un certain nombre de courants historiographiques qui ont tenté de sortir des limites de l'Europe pour penser l'émergence du capitalisme, et notamment la première, pas historiquement, mais la première qui peut apporter des choses par rapport à ça, ce serait du coup l'histoire en termes de système monde, qui est donc une approche qui a été proposée à la suite de Fernand Braudel, qui est un historien du coup assez important de la Méditerranée notamment, qui a beaucoup utilisé le concept d'économie monde. Finalement, le fait que le développement commercial de l'Europe du 15e au 18e siècle n'est pas un développement stricto sensu européen, mais un développement beaucoup plus global, voilà, qui allait vers l'Inde, vers la Chine. À partir de ça, Immanuel Wallerstein, qui est donc un sociologue états-unien, a proposé du coup de parler de l'histoire de l'émergence du capitalisme en termes d'une succession de systèmes monde. D'abord le système monde espagnol, portugais, génois, etc. Donc plutôt du 15e, 16e siècle. Ensuite un système monde hollandais plutôt au 17e siècle. Un système monde anglais ensuite à partir de la révolution industrielle jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis enfin le système monde américain dans lequel on serait toujours. Et l'intérêt de leur perspective, c'est que ça relie l'histoire de ce qui malheureusement est toujours pensé en termes de moteur ou de centralité historiographique, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident, les États-Unis, etc. Mais il y a une articulation entre du coup ce qui est appelé des centres. Alors du coup, moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est cette notion de centre, finalement, comme elle est extensible au Japon, à la Chine aujourd'hui, finalement, elle perd progressivement au cours de l'histoire de son caractère très eurocentrique. Et des centres qui seraient caractérisés par le fait qu'ils se subordonneraient des périphéries dont ils capteraient les ressources, la force de travail, etc. Et donc à différents moments de l'histoire. Donc par exemple, on pense là au pillage des Amériques par les empires espagnols et portugais qui ont drainé énormément d'argent et d'or. On pense au système monde anglais, à la révolution industrielle qui reposait énormément sur le coton issu du travail des esclaves dans le sud des États-Unis, puis bon, avant aussi dans les Caraïbes. Et puis on pense aux États-Unis et le système pétrolier mondial qu'ils ont mis en place au cours du XXe siècle. Donc il y avait quand même un intérêt avec cette notion de centre et de périphérie, même si à mon avis, il faudrait complexifier un peu cette notion de centre et de périphérie, peut-être parler de différentes formes de centre. Il y a presque des espèces de noyaux qui sont vraiment centraux, genre Londres par exemple. Londres, Manchester, c'est vraiment des noyaux du capitalisme industriel ou du capitalisme financier au 19e siècle.
Avec par ailleurs des périphéries rurales locales.
C'est ça, des périphéries rurales locales, donc on pourrait parler de périphérie centrale. Enfin voilà, il y aurait vraiment moyen d'étendre ça en multipliant le niveau des échelles, mais enfin en tout cas, c'est assez intéressant puisque c'est vraiment un type d'approche qui permet de penser les connexions, des connexions qui sont pensées en termes inégales. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de penser la connexion et ça permet de la penser de manière inégale.
Et notamment d'articuler, du coup, les formes d'exploitation. Par exemple, des formes d'exploitation reposant sur un travail formellement libre dans les centres et des formes d'exploitation reposant sur des moyens d'extraction, non économiques, coercitifs de la force de travail dans les périphéries.
Ouais, complètement. C'est vrai que du coup, ils ont réussi à sortir d'une histoire qui opposait finalement le salariat à l'esclavage, que ce soit de manière positive pour les libéraux en disant le salarié c'est génial, l'esclavage c'est pas bon, ou que ce soit de manière plus marxisme politique en disant le salariat c'est pas bon, l'esclavage non plus c'est pas bon, mais c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment très très séparé quoi. Et c'est clair qu'il y a vraiment, ils ont réussi à penser les formes d'exploitation domestique, il y aurait presque des usages féministes qu'on pourrait faire de la théorie des systèmes mondes. Même Weyerhaeusen commence à en parler un petit peu, notamment dans son livre qui s'appelle Race, Nation, Classe, qui est très intéressant, sur lequel on a fait une note de lecture. Mais en tout cas, ça permet de penser ça. Après, les grosses limites de cette approche, pour en citer quelques-unes, le premier problème, c'est que ça parle de système monde, alors même que on peut considérer que jusqu'à la colonisation de l'Inde, qui commence vraiment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et surtout dans la colonisation informelle de la Chine à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium globalement, on peut considérer que avant cette période où l'Inde et la Chine sont effectivement subordonnées à ce qu'on pourrait appeler le système monde britannique, enfin à partir de ce moment-là, tant qu'il y a ça, il n'y a pas un système monde britannique, dans le sens où il y a plutôt une espèce de système, un système transatlantique britannique, où là vraiment la Grande-Bretagne est centrale, c'est le fameux commerce triangulaire, quoi. Voilà, avec du coup la Grande-Bretagne qui ramène des produits manufacturés, du coton d'Inde ou des armes pour récupérer des esclaves. Les esclaves sont ramenés dans les Caraïbes et au sud des États-Unis pour produire du coton qui va servir à la révolution industrielle anglaise. Mais enfin, en tout cas, il y a effectivement quelque chose comme un système transatlantique britannique qui existe dès le XVIIIe siècle. Par contre, parler de système monde, c'est très problématique parce qu'en réalité, l'Inde et la Chine conservent une indépendance politique très forte pour la Chine, un peu plus faible pour l'Inde, jusqu'au XIXe siècle. Et donc, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un comme Sven Beckert proposait de parler plutôt de réseaux mondiaux avant l'émergence vraiment d'un système monde. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce d'eurocentrisme, c'est-à-dire on fait naître le système monde européen, entre guillemets, bon, en réalité qui est anglais principalement au XIXe siècle. Enfin, après, avec l'expansion coloniale de la France et des autres puissances, on peut parler d'un système monde européen, mais enfin, en tout cas, ils étendent ce système monde anglais ou européen avant même son existence, à partir simplement de la conquête des Amériques et de la subordination de l'Afrique de l'Ouest à travers l'esclavage. Mais c'est trop tôt parce que ça veut dire, c'est comme faire comme si le monde c'était l'Atlantique. Or, il y a la Chine et il y a l'Inde. Et ce qui fait que par exemple quelqu'un comme Günther Frank, qui a plein de problèmes et dont on va parler d'ailleurs, il a raison de dire, enfin, de pointer que une énorme partie de l'or et de l'argent qui était drainé à partir de l'Amérique du Sud vers l'Espagne, se retrouvait ensuite en Chine, parce que les Européens avec ça achetaient des produits chinois. Et l'Inde reste, jusqu'au XVIIIe siècle inclus, le plus gros producteur, le plus gros exportateur même, de textiles au monde, quand on sait la centralité du textile jusqu'au XIXe siècle inclus, même dans la révolution industrielle. On voit bien que, clairement, il y a un problème par rapport à ça. Et du coup, la critique qu'on pourrait faire un petit peu de Weyerhaeusen, c'est que, certes, il sort d'un eurocentrisme strict et il passe à une forme de transatlantico-centrisme qui reste assez limitatif et vachement focalisé finalement sur l'histoire des États-Unis et de l'Europe.
Et ensuite, à partir de Weyerhaeusen, faut rappeler un truc que pour lui, avant, il n'y a pas de système monde. Le capitalisme marque, quand il émerge, marque aussi l'émergence de un système monde. Donc avant, il y a ce qu'il appelle des empires mondes. C'est écrit empire-monde ou système-monde, c'est pour dénoter le fait que ce seraient des zones qui fonctionneraient comme des mondes en tant que tels, complètement introvertis sur elles et eux-mêmes. Ce qui fait que de là, ça ouvrait des portes immenses effectivement à la contestation d'où situer le cœur du monde ou de la pluralité de systèmes mondes. Et donc de là, il y a toute une littérature qui essaie de se faire l'avocat de la présence de systèmes mondes ailleurs et avant, donc notamment en Asie du Sud-Est, dans l'océan Indien, même parfois en Amérique, même si c'est beaucoup plus difficile comme démonstration. Mais donc on voit que dans la thèse de Weyerhaeusen même, il y avait des limites qui font que ça peut tout de suite partir, ces cadres spatio-temporels sont très faibles, la manière dont il les pose est très faible, ce qui fait qu'on peut s'étendre en amont temporellement, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher du système monde en Mésopotamie en moins 5000.
C'est ce que fait Günther Frank d'ailleurs.
Ce que fait par exemple Günther Frank, comme on peut en fait dire que, comme Günther Frank, il n'y a jamais eu qu'un seul système monde avec plusieurs cœurs, et là-dessus, c'est édifiant les débats de Weyerhaeusen et Günther Frank, ils ont vraiment eu des échanges acérés, interposés, mais Wallerstein n'a aucun argument à part dire « je trouve que c'est trop tôt ». C'est-à-dire que partageant, simplement posant l'émergence du système monde à partir d'une intensification du commerce,
ouais.
Parce que ça, il faut le rappeler, du coup, pour Wallerstein, c'est les échanges commerciaux, le critère déterminant. C'est-à-dire qu'on passe à un commerce de masse et pas justement à un commerce marginal et de biens de luxe entre différents pays, différents états, différentes sociétés. Et donc pour lui c'est ça. Donc à partir du moment où ensuite des historiens trouvent des traces de commerce de masse ou éventuellement de commerce inégal dans des phases précédentes, on peut effectivement reprendre des critères de Wallerstein lui-même et à son corps défendant pour dire qu'il y avait du capitalisme.
Oui, clairement, c'est ça le gros problème finalement de Wallerstein, et d'ailleurs il a été critiqué par Robert Brenner dans un article qui s'appelait « Critique of Neo-Smithian Marxism », donc du coup une critique d'un marxisme néo-smithien, parce que finalement, même s'il sortait des frontières de l'Europe, le récit de Wallerstein reste très smithien, dans le sens où finalement il y a une espèce de compulsion de l'humanité vers le profit, l'échange, etc., et finalement ce qui fait obstacle, ce qui faisait obstacle, disons, avant le XVIe siècle, ce n'est plus dans le récit smithien, le féodalisme, mais c'est un autre concept, c'est-à-dire c'est les empires mondes, voilà, qui empêcheraient le développement du commerce et du profit et l'accumulation du capital, qui est très mal défini d'ailleurs chez Wallerstein, puisqu'on a l'impression que c'est juste une espèce de chose, pas un rapport social, et finalement aurait fait obstacle, et donc il prend l'exemple, voilà, typiquement de la Chine, où du coup les paysans ne peuvent pas vendre leur surplus sur le marché et du coup générer une espèce de dynamique, d'innovation, d'accumulation de capital, enfin accumuler, donc avec leur profit de leur vente, innover, augmenter les moyens de production, développer la division du travail, etc. Donc ça reste très smithien finalement, mais du coup là c'est la captation par une bureaucratie centralisée, comme par exemple la Chine, où finalement ça sort du schéma féodalisme, mais c'est principalement parce qu'il prend un autre exemple, il prend celui de la Chine et de l'Inde, où il y a effectivement soi-disant des états centralisés et tout, qui est beaucoup plus faible que ce qu'il dit, mais voilà.
Et puis c'est un schéma qu'on retrouve en général dans son argumentation, qui est aussi un problème qu'il reprend les logiques que d'habitude on place à l'échelle de l'État-nation, sauf qu'il les élargit à l'échelle de ces systèmes-mondes ou de ces empires-mondes. Donc par exemple la logique féodale à l'échelle des empires-mondes.
Ouais.
Ce qui pose des problèmes parce qu'en fait on ne fait pas sauter des logiques sociales d'une échelle à une autre comme ça.
Ouais, complètement. Et ce qui fait que du coup il a tendance à reprendre la vision un peu du despotisme oriental, comme quoi l'empereur de Chine aurait vraiment eu un pouvoir énorme, alors qu'en réalité il avait un pouvoir à peu près identique à celui du roi de France, c'est-à-dire un pouvoir en fait extrêmement faible, parce que comment contrôler un pays avec simplement des messagers qui envoient des missives. Et en réalité, c'est aux échelons locaux où il y avait le pouvoir était principalement local, même si évidemment il y avait quand même des capacités de mobilisation militaire et fiscale qui étaient indéniables, mais Wallerstein grossit les traits. Après Wallerstein, il y a eu d'autres historiens qui finalement se sont réclamés du système monde. Bon, alors il y a évidemment Gunther Frank, peut-être tu peux en parler.
En fait, je pense qu'il y a une transition par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait qu'il reproduit un peu le cliché du despotisme oriental, c'est que s'annonçant comme une histoire non eurocentrique, Wallerstein finalement reproduit les dichotomies usuelles de l'eurocentrisme avec the West and the rest, l'Occident et le reste et les autres. Et donc là-dessus, il y a d'autres historiens effectivement qui ont essayé de continuer à dépasser l'eurocentrisme. Sauf que ce qui est frappant, c'est qu'ils l'ont fait toujours avec les mêmes outils analytiques fondamentaux que Wallerstein, avec une perspective néo-smithienne. Donc notamment, il y a un anthropologue comme ça, Jacques Goody, qui s'est de plus en plus, à travers sa vie, intéressé à l'histoire globale, même si ses perspectives sont un peu plus complexes. En gros, sa thèse est qu'à partir de l'âge de bronze, il y a des sociétés mercantiles qui émergent, et que toutes partagent des traits. C'est-à-dire que à travers toute l'Eurasie, les sociétés qui émergent en Mésopotamie, en Chine orientale, puis ensuite qui vont émerger au fur et à mesure en Grèce, puis en Europe, etc., partagent des traits fondamentaux, à savoir la présence d'une élite cultivée, de marchands, d'une sphère publique, d'une proto-forme de société de consommation, et que donc tracer des lignes trop marquées entre elles serait problématique. Donc ce que lui dit, c'est que plutôt que de prendre un instant T, par exemple le passage du féodalisme au capitalisme en Europe, et prendre cet instant et le prendre comme une preuve de la supériorité intrinsèque du capitalisme, il dit, il faudrait voir ça en termes de cycle de croissance et de décroissance. C'est-à-dire qu'à certains moments, depuis l'âge de bronze, il y a des sociétés qui sont dominantes et d'autres qui sont dominées, mais finalement, elles sont pas radicalement différentes les unes des autres, et c'est jamais qu'une domination temporaire. Et donc la domination occidentale s'insérerait dans cette suite de domination temporaire où finalement tout le monde partagerait plus ou moins les mêmes formes de vie, avec une circulation des savoirs, des technologies, des formes de pensée, etc. Donc ce qui pose évidemment un énorme problème et que lui-même il a fini par cerner à la fin de son œuvre, notamment dans le vol de l'histoire, il dit lui-même est-ce qu'on pourrait se passer du concept de capitalisme ? Et il semble répondre par l'affirmative, en fait. C'est, dans son cadre d'analyse, c'est pas un concept pertinent, puisqu'en fait, tout est pareil depuis l'émergence des villes. Il n'y a pas besoin de positionner de rupture radicale. Il y a d'autres historiens qui ont fait un peu le même genre de choses. Donc, on a parlé de Gundar Frank.
Oui, qui a remplacé ça par une espèce de truc, finalement, sinocentrique, où finalement, au XVIIIe siècle, le monde entier tournait autour de la Chine. C'est quand même très, très, très critiquable, quoi.
Voilà. Et alors, avec cette particularité que... Donc, Goody n'est pas historien de formation, même s'il a, de fait, il a fait beaucoup d'histoire. Gundar Frank n'est pas historien de formation non plus. Mais par contre, quelqu'un qui est historien de formation et qui est un peu moins connu, mais qui s'est essayé à vraiment mettre sur le métier un paradigme de ce type, c'est Victor Lieberman. Donc dans une œuvre en deux volumes qui s'appelle Strange Parallels, Southeast Asia in Global Context, il étudie un millénaire d'histoire de l'Asie du Sud-Est dans une perspective à la fois comparée avec la Chine, la Russie, le Japon, l'Angleterre et la France, et l'Inde également aussi, et dans une perspective connectée. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est exactement la même incapacité à restituer des différences socio-historiques. C'est-à-dire que vous lisez 1500 pages qui parlent de sociétés aussi différentes les unes des autres, et que vous ressortez avec le sentiment que toutes partageaient la même morphologie, les mêmes fonctionnements et logiques sociales qui... et a priori problématique. Et donc c'est un exemple particulièrement utile parce que voilà, quand on traite de tant de sociétés tellement différentes qu'on est incapable de restituer une différence, c'est qu'il y a a priori un problème dans le paradigme pour les aborder. Sous prétexte de vouloir détruire pour de bon l'eurocentrisme, en fait, effectivement, il n'y a plus de différence Est-Ouest, à part des différences très conjoncturelles. Mais de fait, c'est plus de l'eurocentrisme, c'est ce qu'on pourrait appeler un capitalocentrisme.
Ouais, complètement. Et finalement, moi, ce qu'on peut avoir l'impression avec l'approche donc de l'histoire globale anti-eurocentrique, c'est que, bon, avec Gundar Frank, clairement, l'idée que finalement ça existe depuis 5000 ans, c'est qu'on a un peu l'impression que la globalisation capitaliste, finalement, est un phénomène transhistorique. Finalement, même c'est même pas seulement le capitalisme qui est transhistorique, c'est même la globalisation capitaliste qui est transhistorique. Et globalement, il y a une espèce d'agenda politique qui est un peu une espèce d'exaltation de la nouvelle mondialisation depuis le début des années 2000 avec un capitalisme polycentrique. Et du coup, il y a une espèce d'obsession historiographique de du polycentrisme. Alors parfois, c'est tout à fait valable, clairement, le fait que le monde n'était pas centré sur l'Europe jusqu'au 19e siècle, c'est tout à fait vrai, c'est très intéressant. Mais le problème, c'est que j'ai quand même l'impression que ça notamment Pomeranz dans la grande divergence, donc l'idée finalement que il y aurait pas eu de différence fondamentale entre l'Europe et la Chine, et notamment entre l'Angleterre et le delta du Yangtze jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et que le monde était polycentrique, et que finalement la Chine n'a pas pu faire la révolution industrielle pour des raisons qui tiennent principalement au fait que les réserves de charbon au nord étaient situées loin des zones économiques les plus développées, et toutes les explications qui sont faites, et qu'ils n'avaient pas de colonies dans le Nouveau Monde. Bon, ce qui est quand même c'est presque du déterminisme écologique pur et dur. Du coup, on a l'impression que on retombe dans le schéma smithien, finalement. C'est des sociétés qui auraient dû arriver à la révolution industrielle, au capitalisme industriel, mais qui n'ont pas pu pour des raisons écologiques, pour des raisons externes, finalement.
Et ce qui ramène en plus à une espèce de déterminisme environnemental assez lambda.
Oui, c'est ça. Et finalement, c'est pour ça quand même qu'il y a un côté, même si Pomeranz s'en défend, mais un côté très malthusien, finalement, dans la thèse de Pomeranz. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a des contraintes écologiques tellement fortes en Chine que finalement, ils n'ont pas pu faire comme en Europe. Alors qu'en Europe, il y a eu une levée de ces contraintes écologiques par la machine à vapeur. Alors même que cette thèse est complètement, pas complètement fausse. C'est vrai que la révolution industrielle, à un moment, aurait eu besoin à un moment de charbon et de machine à vapeur pour se poursuivre. Mais au début, les 50 premières années, comme le montre par exemple André Asmal dans Fossil Capital.
Ou Zenbaker dans Empire of Cotton, d'ailleurs.
Ou aussi Zenbaker dans Empire of Cotton, c'est que la révolution industrielle s'est faite d'abord avec de l'énergie hydraulique en Angleterre pendant les 50 premières années. Et du coup, dire que la révolution industrielle en Angleterre, elle a eu lieu parce qu'il y avait du charbon, enfin je veux dire de l'eau, il y en avait en Chine aussi d'ailleurs, il y en avait même pas mal. Et donc du coup, c'est une thèse qui est hyper réductionniste. Oui, le charbon était une condition nécessaire de la révolution industrielle et du capitalisme industriel, mais c'était pas du tout une condition suffisante et ni une condition déterminante. Et ce qui en réalité a fait la différence entre le delta du Yangtze et l'Angleterre, c'est le fait que les dynamiques sociales étaient complètement différentes. C'est-à-dire que d'une part, en Angleterre, on avait cette dépendance générale au marché, l'expropriation de la paysannerie, un salariat massif. Cette dynamique, disons, du capitalisme agraire a fait que, d'une part, une partie de la population croissante a été poussée vers les villes, parce qu'expulsée des campagnes. Et donc ça a créé une main-d'œuvre qui était dépendante du salariat et donc qui était disponible finalement pour l'industrialisation, pour le système des fabriques, première condition. Deuxième condition, l'expansion gigantesque de la production agricole avec une augmentation sans cesse de la productivité du travail, la diminution des coûts, etc. a fait que les denrées agricoles étaient moins chères. Et du coup, ces denrées agricoles, le fait qu'elles soient moins chères, ont permis du coup aux consommateurs anglais de consacrer une partie de plus en plus importante à l'achat notamment de vêtements, ce qui a permis du coup le développement d'un marché textile assez important en Angleterre. Alors que qu'en Chine, les paysans tiennent les terres, ils sont obligés de perdre une partie de leur récolte parce qu'ils les donnent aux seigneurs, mais les seigneurs n'ont que ça. Ils ont une partie de la récolte, mais ils n'ont pas de contrôle sur les terres. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils essaient de survivre en autosubsistance, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important, c'est que en général, les producteurs agricoles, quand ils peuvent ne pas dépendre, ils cherchent à dépendre globalement le moins possible du marché, parce que le gros risque du marché, c'est que si à un moment, les prix du marché s'effondrent, t'es mort, quoi. Si tu fais de la monoculture de coton et que les prix du coton s'effondrent, ben, c'est foutu, quoi. Et du coup, l'objectif reste l'autosubsistance, sauf que le problème, c'est que avec la dynamique démographique de la Chine, eh bien, les parcelles des paysans sont toujours plus petites. Et ce qui fait que, du coup, ils sont contraints de travailler de plus en plus, et notamment, ils développent effectivement une sorte d'artisanat textile, où ils vont aller vendre, du coup, ils vont fabriquer leurs vêtements, et ils vont aller les vendre sur des marchés. Ce qui fait que, par exemple, Pomeranz a vu là-dedans une dynamique proto-industrielle, comme il y avait eu en Angleterre au XVIe, XVIIe siècle. Sauf que la grosse différence, c'est que, bon, outre le fait que dans le cas de la Chine, les paysans étaient quand même relativement plus indépendants des marchands qu'en Angleterre, où ils étaient complètement subordonnés aux marchands. Et c'est, en Inde, c'est pareil, les producteurs textiles avaient beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis des marchands qu'en Angleterre, possédaient leurs moyens de production, etc., etc. Enfin bref, à part ces différences, il y a le fait que les producteurs chinois, comme ils tiraient très peu de revenus de la vente de produits agricoles, puisque globalement, la priorité, c'était de se nourrir, et comme leur parcelle était toujours plus petite, ben, il y avait toujours moins. Ils étaient même obligés d'acheter du grain à l'extérieur pour se nourrir, donc ils ne pouvaient absolument pas en vendre. Et leur production textile étant de très faible qualité, puisqu'ils avaient des mauvaises machines et tout ça, ils avaient des outils très faibles, ils n'avaient pas pu avoir d'accumulation de capital, même s'ils l'avaient voulu, entre guillemets. Or, ce n'était pas une société capitaliste, donc ils ne l'auraient pas forcément voulu. Mais il n'y avait pas de possibilité d'accumulation de capital, donc il n'y a pas eu de révolution industrielle en Chine, notamment pour ça. Et parce qu'il n'y avait pas de dynamique de compétition généralisée, il n'y avait pas de marché unique. Et finalement, les villes en Chine se sont très peu développées aussi à ce moment-là, parce que les paysans ne pouvaient pas leur acheter grand-chose. Donc les manufactures, les biens manufacturés, ils ne pouvaient pas acheter, parce qu'ils étaient déjà, et ils essayaient déjà de survivre. Les villes ne pouvaient pas accueillir grand monde, puisque finalement, il n'y avait pas beaucoup de travail salarié à offrir, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de consommation. Et d'autre part, de toute façon, on ne pouvait pas nourrir cette population excédentaire des villes. Enfin, il y a tout un tas de raisons sociales et économiques. On pourrait parler d'autres critères, hein, mais notamment au moins d'autres critères sociaux et économiques. Et puis après, une vision du monde différente aussi. Hein. Il n'y avait pas de vision du monde capitaliste comme il y avait en Angleterre, clairement en Chine. Toutes ces choses ont fait que l'Angleterre et la Chine n'ont pas pris du tout la même voie. Et ce n'est pas du tout tombé dans une forme d'eurocentrisme de dire ça, puisque finalement, la trajectoire de la Chine, elle avait un certain nombre d'avantages. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a des grandes famines qui ont été évitées en Chine par le système impérial. Il y avait vraiment un système où l'empereur avait des immenses greniers qui permettaient en cas de famine de porter secours aux régions qui étaient affamées. Et après, c'est quand même une dynamique qui finalement a perdu par rapport à celle de l'Occident, parce qu'il y a eu les guerres de l'opium, il y a eu la révolte des Taiping dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc évidemment, c'était une dynamique qui était, effectivement, par rapport à celle de la révolution industrielle, c'était des dynamiques qui étaient inégales, parce que clairement, la dynamique de la révolution industrielle allait permettre à l'Angleterre de dominer militairement la Chine lors des guerres de l'opium, alors que la dynamique de la Chine, au contraire, allait faire qu'ils allaient perdre. Mais clairement, on voit que la divergence de l'Angleterre vis-à-vis du reste du monde, ce n'est pas avant tout une question écologique, ou simplement de colonies, parce que des pays qui avaient des colonies, il y avait la France, il y avait... Alors pourquoi est-ce que finalement le Portugal et l'Espagne ne sont pas devenus les principales puissances capitalistes? Alors que si on prend le 19e siècle, le Portugal et l'Espagne, c'est clairement des périphéries du capitalisme. Des périphéries qui sont sous-développées d'un point de vue capitaliste. Et donc clairement, on voit bien que cette thèse du charbon, elle est beaucoup trop limitée, c'est une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante. C'est une condition nécessaire pour la poursuite de la révolution industrielle, mais c'est même pas une condition nécessaire pour le début de la révolution industrielle. Alors à part, si on prend la question de la concentration urbaine, c'est vrai que Andreas Mann dans Fossil Capital montre bien quand même que le charbon, ça a permis de concentrer les populations dans des villes, ça a permis de les chauffer et tout ça. Mais à la limite, ils auraient pu recourir à du bois, en les faisant venir précisément des colonies et tout ça, enfin... Du coup, clairement, le déterminisme écologique, c'est une explication qui est beaucoup trop réduite. Et la question des colonies, c'est une question qui élude vraiment le problème. Parce que les colonies ont été une condition nécessaire à la révolution industrielle. Pour le coup, là, vraiment, le coton... Pas vraiment, t'as raison de dire le coton des États-Unis a permis la révolution industrielle anglaise. Mais c'est pas le facteur décisif qui a fait que la révolution industrielle a eu lieu, mais plutôt des facteurs... comme ce qu'explique le marxisme politique.
Puis en plus, c'est spontanément, le déterminisme environnemental, c'est le type d'explication facilement mobilisable et qu'on comprend avec facilité, alors que historiquement, c'est extrêmement difficile à démontrer, comme le montre aussi Malm, par exemple, quand il essaie de regarder si, comme l'expliquent certains historiens économiques, c'est le rendement décroissant de l'énergie hydraulique qui aurait forcé le passage... à l'énergie fossile, et où en fait simplement pour des questions de connaître quel était l'état des cours d'eau par exemple à chaque année, leur répartition, leur force, qu'est-ce qu'il y avait autour de chacun d'entre eux, etc. Ça suppose un travail vraiment quasi impossible historiquement en fait, de connaissances, d'archéologie, etc. C'est un genre d'outil explicatif facilement mobilisable mais qui en réalité peut pas avoir de poids déterminant empiriquement.
Clairement, clairement. Et qui peut marcher que dans une vision, comme un historien qui s'appelle Wrigley, qui a donc écrit des ouvrages sur l'énergie dans la révolution industrielle. Et oui, évidemment, que l'industrialisation de l'Angleterre à un moment, bien sûr, que le potentiel de l'énergie hydraulique aurait été entamé et que la transition... Mais ce que montre très bien Malm, c'est que la transition a eu lieu avant que ce potentiel énergétique soit réellement limité, et a eu lieu pour des raisons qui sont liées à la dynamique du capitalisme industriel, c'est-à-dire que la machine vapeur permettait d'asseoir un meilleur contrôle sur la main-d'œuvre, d'augmenter la productivité du travail et de répondre de manière réussie à aux luttes ouvrières, à la baisse du temps de travail et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour des raisons capitalistes que la machine vapeur a été adoptée et qu'on est passé une espèce de seconde phase de la révolution industrielle anglaise. Donc, non plus basée sur l'énergie hydraulique principalement, mais sur l'énergie de la machine vapeur. Mais c'est vraiment pour des raisons purement capitalistes et pas pour des raisons liées à des questions écologiques. Et finalement, je pense que ce qui est important de souligner, et ça c'est quelque chose qui est clair, c'est que Pomeranz, comme quelqu'un d'autre qui s'appelle Parthasarathy, qui fait le même type de récit que lui sur la question de l'Inde, la divergence entre l'Inde et l'Angleterre. J'y reviendrai plus tard parce que c'est quand même assez intéressant, parce que Parthasarathy est quand même un petit peu plus fin que Pomeranz. Malgré tout, finalement, il retombe, Pomeranz, dans une forme d'eurocentrisme. C'est-à-dire qu'il prend des institutions qui ont été développées spécifiquement en Angleterre comme étant universelles, comme étant les mêmes partout. Et donc il dit que les institutions économiques en Chine et en Angleterre étaient les mêmes au milieu du 18e siècle. Et il prend pour ça les mêmes critères qu'Adam Smith, qui est vraiment dans un récit complètement smithien, c'est-à-dire qu'il dit division du travail, profit, innovation, voilà. Et clairement, on retombe dans un récit smithien qui naturalise le capitalisme et qui a donc qui historiographiquement est mauvais et qui politiquement est catastrophique, voilà. Après, Parthasarathy, c'est déjà un petit peu plus intéressant parce que même s'il donne un poids encore trop exagéré au charbon, même si, bon, c'est vrai que Pomeranz et Parthasarathy, ils mettent quand même à un moment Bon, c'est vrai que le charbon, maintenant, on sait que c'est moins central dans la révolution industrielle, vous croyez? Mais malgré tout, mais pas moins, on se dit quand même dans un article de 2002, mais malgré tout, sans ça, il n'y aurait pas eu la continuation de la révolution industrielle. Sauf que le problème, c'est que comment est-ce que tu peux expliquer une grande divergence par quelque part? De toute façon, ça n'aurait pas pu continuer. Mais non, il faut expliquer la divergence en tant que telle et donc la révolution industrielle en tant que telle. Et tu ne peux pas l'expliquer par ce qui se serait passé plus tard, parce que c'est un type d'histoire complètement à l'envers, quoi, téléologique, quoi. Et du coup, Parthasarathi, c'est déjà un peu plus intéressant parce qu'il montre que, bon, alors, outre le fait que c'est lui qui, enfin, qu'il met bien en avant le fait que l'industrialisation de l'Angleterre a eu lieu notamment en réponse à la au fait que les textiles indiens étaient plus compétitifs sur les marchés globaux. Du coup, les manufacturiers anglais ont innové, rationalisé le processus de production, etc., pour répondre à la compétition des textiles indiens. Donc, ce qui renverse un peu le schéma eurocentrique. Très intéressant. Et ce qui est un peu intéressant aussi avec Parthasarathi, c'est que il dit bien que la spécificité de l'Angleterre, alors pour le coup il prend, c'est que elle a réagi de manière très différente de la France et de l'Empire ottoman à cette compétition indienne. Comment est-ce que ces trois pays ont réagi? L'Angleterre a réagi en fermant ses marchés au début du XVIIIe siècle au textile indien, mais pas au coton brut, pour permettre aux manufacturiers anglais justement d'opérer ce que Robert Kurtz de la critique de l'art appelle une modernisation de rattrapage, c'est-à-dire, donc du coup, ils ont commencé à copier les textiles indiens, ils ont commencé à essayer d'innover, à faire baisser les coûts de production, à améliorer la qualité, à répondre aux demandes potentielles de différents marchés, etc., etc. Et ensuite, ils ont commencé à devenir compétitifs sur les marchés mondiaux au bout de 70, 80 ans, sur les marchés globaux, et puis ils ont fini par même écraser l'artisanat indien dans les premières moitiés du 19e siècle. C'est une modernisation d'attrapage qu'on pourrait dire capitaliste, clairement. Alors que, pardon, c'est une forme de mercantilisme. Le mercantilisme, globalement, la perspective du mercantilisme, c'est une stratégie économique, disons, à partir du 15e, 16e siècle, c'est de dire, on va diminuer nos importations et on va augmenter nos exportations. Pour, justement, la perspective était liée aux métaux précieux, c'est-à-dire, c'était pour éviter que l'or et l'argent se barrent du pays, quoi. Et la stratégie de l'Angleterre, c'est une forme de mercantilisme, mais capitaliste, clairement capitaliste. C'est la seule forme d'ailleurs de mercantilisme et capitaliste. Je ne sais même pas si on peut vraiment parler de mercantilisme. Enfin, globalement, ils reprennent des mécanismes qui sont ceux du mercantilisme, c'est-à-dire on stoppe les importations par du protectionnisme douanier et on va essayer d'exporter plus tard. Le cas de la France est complètement différent parce qu'en France, ils interdisent non seulement les produits indiens pour pas faire de la concurrence aux manufacturiers de la soie et de la laine français, mais ils stoppent aussi les importations de coton brut parce que ça fait de la concurrence aux manufacturiers de la soie et de la laine. Et du coup, ils n'entament pas de modernisation de rattrapage capitaliste. Ils restent dans une forme de protection des intérêts acquis. Bon, ça démontre une nouvelle fois pourquoi est-ce que la France n'est pas capitaliste justement au XVIIIe siècle. Ce sur quoi on a consacré une émission justement avec William. On voit bien les différences de réponse à ça. Et alors, le cas le plus extrême étant celui de l'Empire ottoman, où eux, ils font rien du tout. Ils se laissent envahir par entre guillemets, par les marchandises indiennes, et il n'y a jamais de modernisation de leur structure, il n'y a jamais de protection, ce qui fait que le secteur textile de l'Empire ottoman, qui était assez dynamique, va décliner progressivement au XVIIIe siècle, et puis au XIXe siècle, va s'effondrer, quoi. Bon, Parthasarathi, au moins, montre que l'État a des réponses différentes. Mais le problème, c'est que, et qui est le même problème qu'avec Pommerin, c'est que il ne lit pas ces différentes réponses des États à différentes formes de société. Donc une capitaliste en Angleterre, une économie d'ancien régime en France, et une forme de société avec un impératif d'approvisionnement. C'est vraiment une économie d'approvisionnement, hein, Empire ottoman. Le but, c'est même pas comme le mercantilisme français de protéger ses marchés, c'est juste d'approvisionner les consommateurs pour que la société soit pacifiée et que l'armée roule bien et tout ça, quoi. Et le truc, c'est qu'il ne relie pas ça, ces différentes stratégies qui montrent bien à des formes de société différentes, Parthasarathi. Et ce qui fait que du coup, il retombe dans le truc smithien et de Pomerantz. Et il essaye de démontrer dans son livre, qui s'appelle Pourquoi l'Europe est devenue riche et pourquoi l'Asie n'est pas devenue. Donc, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not. Il essaye de montrer que en fait, les institutions économiques de l'Inde et de l'Angleterre étaient les mêmes au milieu du XVIIIe siècle, en disant, bah, regardez, il y a de la division du travail, il y a de l'innovation, il y a de l'exportation en Inde. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment, il réfute une thèse comme quoi les textiles indiens étaient plus compétitifs au XVIIIe siècle. Ça, c'est un des apports, je pense, de Parthasarathi. Il réfute l'idée que les textiles indiens étaient plus compétitifs par rapport aux marchandises anglaises parce que les travailleurs indiens étaient mal payés. très très mal payés. Et en fait, ils montrent que non, pas du tout. Ils étaient mieux payés. Et mais ils avaient un meilleur pouvoir de négociation avec les marchands, etc., etc. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que du coup, bah, ça veut dire que les rapports de production en Angleterre et en Inde étaient différents. C'est-à-dire qu'en Angleterre, même à l'époque de la proto-industrialisation, bah, en fait, il y avait une dépendance intégrale vis-à-vis des marchands en termes de matières premières, de débouchés, etc., des producteurs ruraux de textiles. Alors qu'en Inde, en général, ils possédaient non seulement leurs propres outils de production, mais en plus, en général, ils cultivaient le coton eux-mêmes ou dans le cadre d'une économie un petit peu plus large. Mais c'était pas les marchands, ils dépendaient pas du marchand pour leur coton brut. Et ce qui fait que ils travaillaient moins, ils avaient des meilleures rétributions et tout ça. Effectivement, cette thèse de la grande divergence, elle apporte des matériaux empiriques qui sont relativement intéressants, parce que comme le but c'est à tout prix d'être anti-eurocentrique, parfois il y a des choses très intéressantes, mais malgré tout, le problème c'est que ça reste dans un type d'histoire qui est extrêmement smithien.
Avec une forme d'eurocentrisme technologiquement incorporée à l'appareil conceptuel.
C'est ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être pour poursuivre dans cette critique justement de l'histoire globale et de sa définition qui tend à la naturalisation du capitalisme, parce que finalement, si on dit qu'il n'y avait pas de divergence fondamentale entre aucun pays au milieu du XVIIIe siècle, du coup il n'y a pas de différence entre le capitalisme et les autres formes de société. Il y a d'autres auteurs qui défendent un petit peu, qui restent un petit peu dans une forme d'anti-eurocentrisme smithien. Peut-être qu'on pourrait parler du coup à ce titre de d'Arrighi ou de Mielands.
Ouais, du coup ça rentre un peu dans les mêmes formes de reproches que ce qu'on peut faire à Goody et Lieberman, de vouloir lier en conservant les mêmes outils analytiques fondamentaux que Wallerstein et que la plupart des gens à qui il s'oppose, hein, de vouloir combiner une approche comparée et connectée de plusieurs sociétés. Par exemple, Eric Mielands dans The Origins of Capitalism and the Rise of the West. Sa thèse principale est qu'on peut trouver la première forme de système monde capitaliste autour des cités-états européennes, donc en Italie et dans la Ligue hanséatique. Et pour démontrer ça, il va essayer de montrer les liens que ce système inter-cité-état avait avec les régions environnantes, notamment la Méditerranée. Comment est-ce qu'il y avait des hiérarchisations de centre, périphérie, semi-périphérie? Comment est-ce qu'il y avait une exploitation économique? Et donc, pour le montrer, il va comparer ce système à l'économie politique de la Chine à la même période, à l'économie politique de l'Inde et de l'Afrique du Nord également. Mais finalement, on retrouve exactement le même problème, qui est que c'est des outils analytiques qui sont pas suffisamment discriminants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont employés dans une fabrique avec quelque chose qui ressemble à un contrat salarié, alors que, en fait, souvent, ces arguments sont basés sur des analyses de sources secondaires. Donc, par exemple, Eric Mielands, il est sociologue, pas historien. Il n'a pas été lire les sources de tous les historiens qu'il a mobilisés pour savoir si vraiment on pouvait parler de contrat salarié. Ce qui est quand même pas du tout la même chose. Jamais c'est pas le cas.
Ouais, ouais, pour le coup, sur cette question-là, un historien du Moyen-Âge, justement, qui s'appelle Alain Guéraud, a montré que dans les sources, on ne trouve jamais mention de journée de travail dans les sources du Moyen-Âge. On parle d'activités très spécifiques, mais le concept de travail n'existe pas au Moyen-Âge. Le terme n'apparaît qu'au XVIIe siècle. Et ça d'une part, et d'autre part, Jean-Yves Grenier, dans l'économie d'Ancien Régime, a montré qu'on ne peut pas vraiment parler de salariat au XVIIIe siècle en France, parce que les formes de rétribution... Et les formes de... Il n'y a pas vraiment de valeur de la force de travail qui est fixée par des mécanismes de marché, mais c'est lié beaucoup à des coutumes, et donc à des formes de relations intersubjectives qui s'apparentent quand même plus au féodalisme qu'au capitalisme.
Même des relations impersonnelles, parce que les coutumes peuvent avoir un caractère tout à fait impersonnel, simplement...
Mais qui ne sont pas, pas liées au marché, quoi.
Voilà, c'est pas la même personnalité qu'une institution économique capitaliste.
Ouais, ouais, complètement. Et du coup, on voit bien que... Et d'autre part, il y avait des formes de rétribution en nature. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de salariat dans le sens où, globalement, le travail libre, entre guillemets, ce qu'on appelle le travail libre, est quand même assez limité, parce que la plupart des professions restent réglementées, etc., etc., liées aux corporations, qui n'ont pas pour objectif la production de valeur, mais plutôt la production d'une certaine qualité d'usage, comme dit Jean-Yves Brunier. Enfin, on voit clairement que, aussi intéressant que les matériaux puissent être, je pense que ce qui est intéressant dans toute cette historiographie qui essaye de trouver des formes de capitalisme ailleurs qu'en Angleterre, en Angleterre du 15e au 18e et dans le reste du monde après le 19e siècle, qui serait un peu l'histoire un petit peu à la Brenner, il y a des matériaux empiriques qui font relativiser le caractère arriéré ou pas du tout économique des sociétés. Et effectivement, on se rend compte que, le Moyen-Âge, c'était pas une espèce de période obscure où il y avait que des seigneurs et des paysans qui... Après, le truc, c'est est-ce que aujourd'hui, c'est vraiment encore nécessaire de lutter pour ce genre de choses? Moi, j'ai l'impression que depuis Hegel, depuis...
Et puis, finalement, on dirait un peu le même argument que Henri Pirenne, c'est les villes qui ont été les bourgeons du capitalisme, et voilà. Enfin, ça, on dirait que c'est un mouvement sur place, quoi, presque.
Finalement, ça avait peut-être un intérêt pour critiquer, disons, toute la tradition des Lumières qui a vu tout ce qui précédait tout ce qui précédait le XVIIIe siècle comme une erreur. C'est ce que Kant disait, hein. Toute l'histoire avant le XVIIIe siècle, ce sont des erreurs. Mais finalement, depuis la vision de Hegel avec des stades et de Smith, on n'est même plus dans cette vision-là. Enfin, finalement, c'est jouer une partie de l'histoire des Lumières, c'est-à-dire avant nous le déluge, contre une autre partie, et qui du coup là revaloriserait plus ce qui s'est passé avant l'Occident en disant « Mais regardez, là quand même, ils avaient du commerce et tout », et qui va derrière, à mon avis, avec un agenda politique de la mondialisation heureuse, de finalement, on va vers un capitalisme polycentrique où tout le monde va être d'euro-capitaliste parce que tout le monde aura pu se développer, quoi.
Ou alors, par exemple, dans le cas de Mielands, ce qu'il essaie de faire avec cette emphase sur le système intercité-État, c'est de dire que c'est un système politique particulier qui a permis l'essor d'un système monde capitaliste, un système politique qui était en Europe, qui n'était pas en Afrique du Nord, en Inde et en Chine. Ou alors qu'il a fait face à d'autres problèmes qui ont fait qu'il n'a pas pu développer un système monde capitaliste. Mais donc, il y a effectivement un agenda politique à vouloir dire que c'est une forme de vie politique dans des États qui a donné naissance au capitalisme, et donc de suggérer qu'éventuellement ça pourrait être une forme de vie politique dans des États, mais élaborée de manière différente, qui pourrait contribuer à enrayer ou mettre fin au capitalisme, ce qui est en soi un parti pris politique assez immense.
Oui, et justement, pour résoudre un peu tous ces problèmes de l'histoire globale, anti-eurocentrique, de l'histoire des systèmes mondes et l'histoire de la grande divergence, sans pour autant retomber dans l'eurocentrisme du marxisme politique et tout en conservant une certaine spécificité dans la définition du capitalisme, on s'est beaucoup inspiré dans cette émission sur un ouvrage qui s'appelle « How the West Came to Rule », un excellent ouvrage qui est paru il y a 2 ans et sur lequel on va consacrer une autre émission plus approfondie parce qu'on pense que c'est vraiment un ouvrage qui en vaut la peine. Mais en tout cas, il nous semblait qu'il permettait de combiner une histoire spécifique de l'émergence du capitalisme, donc qui dénaturalise le capitalisme et qui donne prise pour penser son dépassement révolutionnaire et pour, dans un premier temps déjà, cesser de penser qu'il est naturel et puis ensuite penser son dépassement révolutionnaire. Et puis d'autre part, qui, d'un point de vue historiographique, par son attention au global, permet justement de penser les formes d'interconnexion entre l'Angleterre notamment et le reste du monde au XVIIIe, XIXe siècle, et politiquement qui permet de penser les connexions entre le salariat capitaliste et l'esclavage. Mais de manière beaucoup plus intéressante que l'approche en termes de système monde, parce que précisément il permet pour ce qui est par exemple de l'articulation entre l'Angleterre et le reste du monde, de ne pas déjà postuler l'Angleterre comme étant le centre du monde au XVIe siècle et le reste du monde comme déjà des périphéries. ni de poser l'Angleterre comme étant le modèle standard de développement dès le XVIe siècle, et finalement les autres pays comme étant arriérés et tout ça, mais en disant, bah non, si on veut parler en termes de... Donc du coup, eux, leur grand concept, c'est le développement inégal et combiné, on peut dire que le développement inégal et combiné, comme eux, ils refusent une forme de téléologie qui fait du capitalisme une espèce de fin d'histoire, ils disent, en termes de développement inégal et combiné, l'Angleterre était inférieure aux Habsbourg, à l'Empire ottoman au XVIe siècle. Parce que militairement et, économiquement, entre guillemets, ils étaient inférieurs, ils étaient moins puissants que la Chine ou que l'Inde. Et du coup, on quitte, à mon avis, une forme de récit où il y a une espèce de modèle standard de développement qui serait l'Angleterre. Alors, pour la politique en général, c'est plutôt la France qui est pris comme modèle et qui amènerait et qui fait que on devrait juger toutes les sociétés à l'aune de cette espèce de norme pure qui serait le développement économique de l'Angleterre et le développement politique de la France. Et eux, ils refusent ça. Et du coup, ça décentre finalement l'histoire du capitalisme, du seul capitalisme, puisqu'ils disent, bah, par exemple, géopolitiquement, le capitalisme agraire dont parle Brenner au XVIe siècle, bah, il était moins puissant que les Ottomans ou que les Espagnols ou que les Habsbourg. Et finalement, du coup, ça permet aussi de prendre en compte le fait que les textiles indiens étaient plus compétitifs que les textiles britanniques encore au XVIIIe siècle. Enfin, en tout cas, c'est clairement un type d'histoire très intéressant là-dessus. C'est un type d'histoire qui montre bien que les sociétés non-européennes, extra-européennes, ont joué vraiment un rôle très important dans l'émergence du capitalisme. Je prends un exemple que donne Sven Becker qui est très intéressant. C'est que il montre bien que à un moment, les capitalistes anglais, pour moins dépendre du coton venu des États-Unis, ont voulu développer le coton en Inde. Parce que c'était déjà, il y avait déjà une énorme production. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu des résistances paysannes tellement fortes et des rapports de production non capitalistes qui résistaient à leur incorporation dans le capitalisme britannique, qu'en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça a été un échec complet. Et du coup, on voit que, finalement, les luttes des paysans en Inde au 19e siècle peut faire que, finalement, le capitalisme britannique a continué de dépendre massivement du coton du sud des États-Unis. Et malgré tout, ça joue quand même un rôle dans le développement, par exemple, de la guerre civile américaine. Enfin, on voit quand même que, clairement, c'est très intéressant. Et leur idée, finalement, d'un développement combiné des sociétés, c'est-à-dire que, finalement, toutes les sociétés rétroagissent les unes sur les autres, et pas seulement les centres rétroagissent sur les périphéries. Ça, c'était la thèse du système monde. Le centre rétroagit sur les périphéries qui suivent vaguement, plus ou moins de retard, et les centres sont des moteurs. Là, on voit que, finalement, les périphéries, les pays en dehors de l'Angleterre peuvent être des moteurs, sur certains secteurs, notamment le textile, plutôt que l'Angleterre. Et finalement, il n'y a pas vraiment de... la combinaison produit des résultats relativement aléatoires. Comme on n'est plus dans une dynamique interne à une société, c'est vrai que l'histoire à la Brenner peut donner l'impression d'une espèce de téléologie. Alors, eux, ils s'en défendent parce qu'ils sont... en fait, en vrai, c'est pas téléologique, parce qu'ils disent bien... par exemple, si l'issue de la guerre civile anglaise avait été différente, le capitalisme ne se serait pas développé, parce que ça aurait été un triomphe de l'absolutisme, le modèle français et tout ça. Si la Grande Armada avait envahi l'Angleterre en 1588, évidemment, le capitalisme anglais ne serait pas développé. Si, les paysans avaient réussi une révolte féodale généralisée en 1549, quand ils ont quand même pris Londres, évidemment, ce capitalisme ne serait pas développé. Enfin voilà, ils se gardent une histoire théologique, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une dynamique interne, ça rend quand même très prévisible les choses. Il y a au moins une tendance historique, quoi. Alors que quand il y a des effets de combinaison, avec des facteurs géopolitiques notamment, du coup l'histoire devient beaucoup plus incertaine, et en vrai l'histoire est très incertaine. Par exemple, il suffit de penser à ce qui se serait passé si, en pleine révolution industrielle, Napoléon avait envahi l'Angleterre. Ça aurait changé complètement la donne, quoi. Ça aurait complètement changé la donne, et peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. En tout cas pas de la même manière, d'une manière probablement aussi dégueulasse, mais de manière un peu différente, quoi. Du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont très intéressantes dans la théorie du développement inégal et combiné. Et dernièrement, peut-être la dernière chose qui serait intéressante, c'est qu'ils pensent beaucoup plus la combinaison que l'approche anti-eurocentrique, où là, il y avait vraiment le centre moteur, les périphéries qui suivent. Mais d'un autre côté, ils gardent quand même leur concept d'inégalité. Mais ce concept d'inégalité, il est détaché d'une notion normative, c'est-à-dire que l'Angleterre peut être inférieure à l'Espagne à la période au XVIe siècle, quoi.
C'est une inégalité beaucoup plus contextuelle.
C'est ça.
Et qui a très une différence avant d'être inégalité.
Oui, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose dont on avait parlé hors de l'émission, de la notion de la différence historique chez Chakrabarty. C'est-à-dire, un des problèmes beaucoup avec l'approche finalement de l'histoire globale, c'est que, sous prétexte de critiquer l'eurocentrisme, ils finissent par nier toute différence entre les différentes sociétés.
Comme si c'était faire un cadeau que d'universaliser le capitalisme.
C'est ça, comme si c'était faire un cadeau que d'universaliser le capitalisme. Effectivement, la différenciation par le capitalisme d'un point de vue anti-eurocentrique a été très mauvaise. Par exemple, on a dit le Moyen-Âge, c'est des barbares, ou les Chinois, c'est des barbares, ou les Arabes, c'est des barbares, etc., etc. Mais finalement, c'est pas non plus faire un cadeau. Il faudrait mieux appréhender de manière relativement neutre, même de manière critique, hein, les spécificités de la société chinoise au XVIIIe siècle, les spécificités de la société indienne au XVIIIe siècle, les spécificités de l'Empire ottoman au XVIe, XVIIe siècle, et simplement les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des sociétés qui sont différentes du capitalisme anglais, qui ont des dynamiques qui sont différentes, qui sont combinées d'ailleurs entre elles, hein, et qui posent d'autres formes de problèmes d'ailleurs que celles du capitalisme anglais, c'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a plus de famine. Alors du coup, c'est pas pour dire que le capitalisme c'est bien, mais par contre, il y a une plus, beaucoup plus forte indépendance économique des acteurs, notamment des artisans et indiens par rapport aux artisans anglais. Donc finalement, il faut plutôt que d'universaliser ou de différentialiser, simplement reconnaître des spécificités aux différentes dynamiques sociales et les penser de manière combinée. Et je pense que tout ça, malgré tout, le développement inégal et combiné, on essaiera de le montrer dans une autre émission en reprenant vraiment leur histoire depuis le XIIIe siècle de ce qui pour eux a été la naissance inégale et combinée du capitalisme. Enfin, en tout cas, clairement, c'est le genre de récit qui peut permettre ça, quoi. Et peut-être qu'une limite, par contre, qu'on pourrait voir à tous les récits en commun, et je vais te laisser finir là-dessus, Benjamin, c'est le fait que, malgré tout, ça reste, et je pense que je suis aussi un critiquable là-dessus, parce que je suis aussi très comme ça, mais c'est le fait que ça reste des approches quand même très macro, qui laissent assez peu de place à des individus, à des histoires singulières et tout ça, quoi.
Mmh. Et en même temps, la perspective du développement inégal et combiné fait signe en fait vers des approches beaucoup plus situées, notamment avec cette question du caractère inégal du développement qui n'est jamais que dépendant d'un contexte, de rencontre de différents vecteurs, etc. Donc ce qui fait que ces concepts sont sous-déterminés et ne peuvent être concrétisés que par l'étude de situations singulières. Donc il y a ça qui est intéressant et ça pourrait faire signe vers d'autres approches plus plus ethnographique, pas tout à fait micro-historienne, souvent c'est plus des anthropologues, mais ethnographique, des mutations contemporaines du capitalisme. On peut penser par exemple au livre récemment traduit d'Anat Singh, Le champignon de la fin du monde, où elle retrace comment le matsutake, un des champignons les plus chers au monde, est récolté dans différentes parties du monde, circule ensuite pour permettre l'accumulation capitaliste, mais avec des articulations très fines sur simplement ce champignon, dans quels écosystèmes est-ce qu'il arrive à croître, et qu'est-ce que ça dit sur la possibilité même de la vie dans les ruines du capitalisme dont nous sommes les habitants.
Ouais, et clairement là, ça renvoie à un autre problème qui est assez général dans toutes ces historiographies, même celle de la Grande Divergence, c'est que finalement, bien sûr que, du coup, clairement, Pomerantz et Parthasarathy, ils prennent la question écologique au sérieux, Andreas Malm aussi.
Mais ils la prennent au sérieux d'un point de vue gestionnaire.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est pas un rapport au monde, c'est une optimisation de l'utilisation des ressources et leur accessibilité.
Ouais, c'est ça. Ça reste quelque chose, finalement, d'assez extérieur, finalement, et ils pensent pas suffisamment. C'est vrai que quelque chose, peut-être là-dessus, quelqu'un comme Jason Moore, dont le livre va être traduit en 2018, peut être quelque chose d'intéressant. Donc il va être traduit aux éditions La Symétrie. Et justement, lui essaye de penser le capitalisme dans le réseau du vivant. Capitalism in the Web of Life, c'était le titre de son bouquin. Et là, pour le coup, en termes d'histoire du capitalisme, Jason Moore a produit quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire en montrant comment est-ce que le capitalisme s'insère dans des écosystèmes particuliers qui le transforment. En même temps, le capitalisme est obligé de s'adapter à ces écosystèmes, il le transforme, et en même temps, en général, ces écosystèmes entrent en crise à un moment, et le capitalisme entre en crise lui aussi, du coup il est obligé de se déplacer. Et il y a tout un... Pour l'histoire du coton, c'est complètement vrai, pour l'histoire du sucre, c'est pareil, il y a vraiment un déplacement du capitalisme au fur et à mesure du temps. Et du coup, le capitalisme s'insère, disons, à l'échelle globale, mais il s'insère aussi, à l'échelle globale, dans des natures particulières avec lesquelles il doit composer, et ces différentes natures particulières déterminent certaines formes, et dans certains cas... Disons, les processus biologiques et chimiques peuvent jouer un rôle finalement dans l'histoire du capitalisme parce qu'il y a des natures particulières qui vont résister finalement à leur exploitation capitaliste, d'autres moins. Enfin voilà, ça, ça ouvre en tout cas à pas mal de perspectives intéressantes. Bon, et ben en tout cas, merci Benjamin d'avoir fait avec nous cette émission qui essayait de poser des jalons pour une histoire globale de l'émergence spécifique, entre guillemets, du capitalisme. Et donc, on se retrouvera pour une deuxième émission autour de l'ouvrage d'Alex Agnevas et Kerem Nissam Tsiolu, How the West Came to Rule, The Geopolitical Origins of Capitalism, donc les origines géopolitiques du capitalisme, et qui permettront de revoir un peu plus concrètement du 13e au 19e siècle l'histoire du développement inégal et combiné du capitalisme, et donc en combinant, entre guillemets, une histoire assez spécifique du capitalisme et en même temps une histoire globale et anti-eurocentrique. Voilà, merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.